Henri de Régnier, La double maîtresse, troisième partie, chapitre 15. Il s'agissait maintenant d'obtenir que M. de Galandot contribuât à l'achat de la villa de Frascati. M. d'Alfi, consulté le lendemain, s'y prêta aux conditions ordinaires et Angiolino rentra chez lui le soir, portant dans sa poche le papier où ne manquait que la signature de la dupe complaisante. C'était un jeu de l'obtenir. Aussi, le ruffian soupa-t-il gaiement en tête-à-tête avec sa maîtresse. M. de Galandot n'avait point quitté sa chambre depuis le retour de Frascati, d'où il était revenu morfondu et claquant des dents. En rentrant, il avait regagné son ancien logis, proche des cuisines, et s'était mis au lit, où la romagnole, par compassion pour sa toux, lui apportait des cataplasmes et des tisanes chaudes. La soirée achevée gaiement, Olympia et Angiolino allaient se coucher quand ils entendirent gratter à la porte. La mine effarée de Jacopo se montra. « Qu'y a-t-il ? » dit Olympia. « Le seigneur Galandot est très mal. »« Que dis-tu là, Jacopo ?»« Oui, signora. En passant par le couloir, je l'ai entendu qui râlait. On croirait qu'il va étouffer. Il fait un bruit comme quand on tire de l'eau d'un puits. Alors je suis montée prévenir. » « C'est bien, j'y vais, » dit Angiolino avec importance. Jacopo descendit, laissant la porte ouverte. Olympia et Angiolino ne disaient rien. Ils se tenaient l'un devant l'autre sans se regarder. La lumière de la lampe dessinait leurs ombres bizarres sur le mur. La porte ouverte montrait son carré de ténèbres. « Ferme donc, » dit Olympia. Angiolino alla vers la porte, la ferma brusquement en retirant sa main comme par crainte de quelque étreinte invisible. Ils se sentirent plus rassurés. Ils avaient de la mort une peur stupide et basse, surtout Angiolino, qui n'avait jamais vu de cadavre. Il leur croyait un aspect effrayant et pensait que la vie enfuie, le squelette apparaît immédiatement. Il allait et venait par la chambre. Sa peur se tourna en colère. Il frappa du pied. « Le gueux ! Ah, le gueux ! Nous mourir là, à deux pas !» Puis il s'arrêta. Un moustique brûlé grésilla au flambeau. Olympia remonta l'épaulette de sa chemise. On entendit le glissement léger du linge sur sa peau. Angiolino, perplexe, se frotta le menton. Le poil de sa barbe rasée râpa la paume de sa main. « Après tout, il mourra bien tout seul. Qui nous force à descendre ?» L'idée d'aller seul dans les ténèbres le faisait frissonner et il implorait des yeux Olympia pour qu'elle lui offrît au moins de l'accompagner. La chandelle charbonnait. Il la moucha avec ses doigts et ajouta. « Qu'il crève sans nous !» Ils se taisaient, pensant tous deux à la même chose. Si M. de Galandot allait mourir sans signer le reçu de M. d'Alfi, il s'agissait cette fois d'une somme importante qui, jointe à toutes celles que depuis des années il tirait du bonhomme, les faisait définitivement riches. Ils se voyaient à Frascati. La villa qu'ils venaient justement de visiter reparaissait à leurs yeux. Elle était blanche dans la verdure avec une colonnade. Des fenêtres, on découvrait au loin la campagne nue jusqu'à la ligne bleue de la mer. Olympia entendait déjà les bruits de ses mules de satin jaune sur l'escalier de marbre. Elle se voyait accoudée sur la terrasse auprès d'un vase de myrte où roucoulerait une colombe perchée. En été, on viendrait chez eux. Le vieux Tito Barelli, avec sa mine de vieille femme, y conterait des cancans et des nouvelles en mangeant un sorbet à la neige pendant que le phare fondrait comiquement à ses joues ridées. On jouerait aux cartes. Elle se baignerait en des eaux froides. Mais pour cela, il fallait que M. de Galandot signât le reçu de M. d'Alfi. Ils se regardèrent et lurent la même pensée en leurs yeux. « Vas-y, » dit Olympia, « où est le papier ?»« Non, descends, » répondit Angiolino, « il signera mieux avec toi. »« Mais non, c'est toujours toi qui lui tiens la main. » L'idée de toucher cette main de mourant, de la tenir dans la sienne, d'en sentir la chaleur fiévreuse ou la sueur glacée, fit frissonner Angiolino. Olympia le toisait. Elle retroussa sa chemise et se gratta le genou. Puis elle cracha par terre, haussa les épaules et dit « Lâche !» Angiolino, sans répondre, alla à un petit meuble, ouvrit un tiroir, en tira un papier plié en quatre qu'il déplia lentement. Olympia lisait par-dessus son épaule. Elle se pencha, posa le doigt sur un chiffre inscrit en gros caractères. « Il faut y aller » dirent-ils en même temps. Depuis un instant, la petite chienne Nina, pelotonnée au pied du lit, s'agitait. Elle avait ouvert l'œil, remué une oreille. Elle finit par se dresser sur ses pattes. Sa langue rose lui pendait au coin de la bouche. Ses griffes piétinèrent le drap. Elle se mit à japper doucement et les regarda sortir. Ils descendaient l'escalier. Les marches leur semblaient plus hautes que de coutume. À chaque pas, ils croyaient mettre le pied dans un trou. Olympia portait le flambeau. Angiolino, une petite écritoire de corne avec une plume d'oie. Ils se tenaient par la main. Ils arrivèrent ainsi au vestibule, puis suivirent le couloir qui menait aux cuisines et s'arrêtèrent devant une porte fermée. Angiolino regarda par le trou de la serrure, puis y colla son oreille pour écouter. Il n'entendit aucun bruit. « Il doit être mort, dit-il en se relevant, si nous remontions. » Olympia écouta à son tour. « Entends-tu ? » dit-elle. Un souffle inégal haletait maintenant derrière la porte, tantôt imperceptible, tantôt gros et ronflant. Intermittent, il bourdonnait comme une mouche ou grinçait comme une poulie. « Allons-nous-en !» chuchota Angiolino. Olympia, sans répondre, ouvrit la porte. La chambre était vaste et pleine de ténèbres que la chandelle tenue haut ne parvenait pas à éclairer jusqu'au fond. Les murs nus, crépis à la chaux, semblaient avoir la chair de poule. Le plafond bas était traversé de grosses poutres. À des clous pendaient des bouquets d'oignons, des grappes d'eau, des paquets d'herbes. À terre gisaient des cruches cassées, des poteries en morceaux. Dans les coins, des meubles de rebut. Sur un vieux fauteuil boiteux était déposé l'habit pistache de M. de Galandeau, lamentable et humide encore de la douche de Frascati, avec ses manches distendues, ses basques recroquevillées, ses broderies ternies, avec je ne sais quoi de saumâtre et de spongieux. Au dossier du fauteuil, la grosse perruque s'étalait, morne, comme une tête sans visage. Tout cela formait une dépouille hétéroclite, bizarre et déjà funèbre. Le lit où gisait M. de Galandeau consistait en une paillasse jetée sur un tréteau bas. Le moribond était couché sur le dos, les mains au drap qu'elle ramenait en s'y crispant. Dans la face terreuse et durcie, la bouche s'ouvrait péniblement, tandis que les yeux restaient clos. Le crâne chauve luisait comme une cire rance. Quelques longues mèches de cheveux gris, ramenées de derrière les oreilles, se recourbaient vers les joues creuses. Ils semblaient sculptés dans une glaise jaune, sèche et comme prête à s'effriter sous les doigts. Olympia, son flambeau à la main, s'était assise sur le lit. Monsieur de Galandeau ouvrit les yeux. Il respirait avec peine. Olympia se pencha sur lui. « Voyons, mon vieux Galandeau, qu'est-ce qu'on me dit ? Tu es malade ? Tu ne souffres pas, au moins ? Mais non, tu as voulu nous faire peur. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas ? As-tu faim ? Veux-tu souper ? On dressera la table. Allons, lève-toi, habille-toi. Tu vas mettre ton bel habit vert que t'a fait Cozzoli. Cozzoli, de la rue del Babuino, celui qui coud assis sur une table avec sa pie sur l'épaule. Tu mettras aussi ta perruque, ta grande perruque. Veux-tu que je t'aide ? Viens, tu ne vas pas rester ici tout seul. » Monsieur de Galandeau regardait Olympia d'un œil hagard. Une quinte de toux le souleva à demi. Olympia voulut lui prendre la main. Il la retira brusquement. Il l'ouvrait et la refermait alternativement, puis la gardait ouverte et semblait en examiner la paume vide avec attention. Le dégoût se marquait sur son visage et il secouait ses doigts comme pour en faire tomber quelque chose de répugnant. Sans doute l'image de la pièce d'or qui avait déposé jadis Lamparelli. « Finis donc !» continua Olympia. « Ta main n'a rien. Tu n'as pas du tout mal à la main. Tu as la main aussi ferme que lorsque tu signes ton nom au bas des reçus de Delphi. Tu sais, quand tu écris au bas « Galandeau », veux-tu essayer de signer encore ? Tu verras comme tu signes bien, et tu ne te croiras plus du tout malade. Tiens, je crois qu'Angiolino a le papier. Angiolino, donne-moi l'écritoire et la plume d'oie. » Elle cherchait à lui mettre la plume entre les doigts sans y réussir. Peu à peu, elle s'impatientait. Le souffle rauque et court lui montait à la figure. « Signe donc ! Signe donc ! » lui cria-t-elle durement, tout à coup, menaçante, de doucereuse qu'elle feignait d'être jusque-là. « Signe donc ! Il fait froid ici. Tu vois bien que j'ai les pieds nus sur le pavé. Je suis en chemise et j'ai perdu une de mes mules dans l'escalier, tant je me suis pressée de venir. Signe donc ! Signe ! Ah, le gredin !» D'un geste violent, M. de Galandot avait rejeté les draps. Une odeur pauvre et sèche sortait de la couche fiévreuse et on vit pendre le long du lit une jambe étique et une cuisse maigre. Angiolino, qui attendait assis sur le fauteuil boiteux, se releva d'un bond. Il n'avait plus peur du tout. « Laisse-le donc crever, s'il veut, ce vieux fou, et va te coucher, Olympia. Moi, je saurais bien le décider à signer les 100 ans de façon. « Ah, ça, crois-tu que tu vas t'en aller ainsi en nous crachant au nez ton âme de vieux sot ? Voyez-moi le bon seigneur, sa carcasse pour tout cadeau. Les vers même n'en voudront pas. Nous l'as-tu assez promené sous les yeux depuis 5 ans ? Allons, allons, monsieur Tom Bison n'est plus là, mon gentilhomme. Ah, ça, videur de peau, signeras-tu ? » Il jura effroyablement et tâcha de maintenir de force la plume entre les doigts de monsieur de Galandot, dont la main se rétractait. La plume becquetait le papier sans rien y tracer. Angiolino lâcha le poignet. Le bras, en retombant, heurta de l'os le bois du lit. Olympia avait repris entre les siennes la main pendante de M. de Galandot. Elle se mit à lui parler d'une voix douce, geignante et pleurâtre. « Voyons, mon petit Galandot, tu ne vas pas me refuser cela à moi. Rappelle-toi tout ce que j'ai fait pour toi. Comme tu es venu à la maison, tu t'es assis dans le fauteuil. Il faisait chaud. » Puis tu m'as apporté les émeraudes. J'étais nue sur le lit. Tu allais me prendre. Pourquoi as-tu eu peur? C'était la petite chienne Nina. Tu l'aimais bien. Donne-moi des sequins pour lui acheter des pâtisseries et du savon mousseux. Et mon bain, quand je sortais de l'eau toute ruisselante. Oui, je sais, Angiolino a eu tort. Il n'aurait pas dû t'envoyer porter les singes à Lamparelli. Mais tu étais si complaisant. Tu aimais tant à rendre service. Tu as dû toujours être comme cela. C'est dans ta nature. Alors on oubliait que tu étais un grand seigneur, que tu avais des terres, des bois, des écus. Il ne faut pas nous en vouloir. Tiens, tu vas mieux. Veux-tu que la Romagnole t'apporte un bouillon ou que Jacopo refasse ton lit? Tu respires bien. Allons, signe donc. Tu en seras débarrassé. Tu pourras dormir. Monsieur de Galandot semblait comprendre. Il souriait faiblement. Ses lèvres sèches remuèrent. Tu as soif? Qu'est-ce que tu voudrais boire? Veux-tu du vin, du citron? J'irai chercher des raisins. Nous les mangerons ensemble, comme le jour où tu m'as vu sur la terrasse. Veux-tu? Je me coucherai sur ton lit, près de toi. Je tiendrai la grappe haute. Je la ferai tourner et je te mettrai moi-même les grains dans la bouche. Sa chemise était tombée jusqu'à la taille. Monsieur de Galandot la regardait. Il lui caressa le bras, tandis qu'elle lui glissait la plume au doigt. Il faisait un effort visible. D'abord, le bec égratigna le papier. Puis, toujours guidé par Olympia, M. de Galandot traça assez distinctement la lettre G. Tout à coup, il poussa un cri muet qui s'arrêta dans sa gorge. Ses yeux se dilatèrent avec terreur. Olympia tourna la tête et, en même temps que la porte s'ouvrait silencieusement d'une poussée invisible, elle sentit peser dans sa main la main de M. de Galandot. La plume brisée grinça aux doigts crispés. Angiolino, debout, laissa lourdement tomber le flambeau, et ce fut dans la nuit que tous deux s'enfuirent épouvantés de la chambre funèbre dont la petite chienne Nina, qui venait d'y entrer, faisait le tour en reniflant, et pendant qu'il remontait l'escalier les dents claquantes et le poil hérissé, la Caroline grimpait sur le lit et, dressée sur ses pattes, sa langue rose au coin de sa bouche, elle flaira dédaigneusement le visage insensible de monsieur de Galandot, puis, s'étant gratté le cou délicatement, elle sauta sur le pavé avec un bruit d'ongles et disparut, légère, coquette et mystérieuse.